Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 21 janvier 1987.
des moments de crise, il revient. Donc il essaie de découvrir comment s'est posé le problème de la personne humaine. Je crois que c'est d'autant plus intéressant, vous voyez, que le mot n'apparaît pas. Sur ce problème du mot et la réalité, Sartre l'a très bien senti. Platon l'avait senti avant lui. Et nous devons nous le sentir. C'était très très beau comme question, tu vois. Les mots nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais quelquefois, télescoper tout le problème. Ce qu'on croit qu'avec le mot, on connaît. Pour cette fois, il y avait un professeur qui, aux examens, c'était un professeur de sociologie. Aux examens, toujours, il nous disait le mot, le mot. Parce que quelquefois, aux examens, il y a une division, on ne sait plus le mot, vous savez. On sait très bien l'arrêter, mais le mot. Alors, il revenait tout le temps, le mot, le mot. Si on sortait le mot, même si on ne savait pas ce que ça voulait dire, ça n'avait pas d'importance. C'était le mot. Alors, quand il s'agit de la personne, la réalité est enfouie. C'est très curieux. Il y a une raison pour ça. Ce serait intéressant d'y réfléchir là-dessus. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit d'une réalité aussi importante pour nous, la personne, c'est capital pour nous, comment se fait-il que dans notre tradition philosophique, c'est notre patrimoine, la philosophie grecque, vous voyez, quelqu'un comme Merleau-Ponty le reconnaît bien. Je vous ai dit, de temps en temps, consultez hein, ce livre de cette manière dont Merleau-Ponty a ponctué tout notre patrimoine philosophique. C'est intéressant, parce qu'il l'a ponctué à sa manière. Mais les Grecs sont quand même les fondateurs. On est bien obligé de le reconnaître. Et par les Grecs, l'influence de l'Inde est arrivée. L'influence sémite. Les Grecs sont ouverts à tout. C'est le propre des Grecs. Ils sont ouverts à tout, parce que c'est une petite terre entourée d'eau. Alors, c'est une petite terre entourée d'eau. C'est comme ça que je commençais toujours en Suisse, la différence de la Grèce et de la Suisse. Mais la Suisse entoure l'eau, les lacs. Et les Grecs. C'est très curieux, c'est très intéressant, du reste. Il n'y a pas que la Suisse, du reste, il y a aussi d'autres pays. Mais c'est au point de vue géographie humaine. C'est tout un climat, c'est pour ça que les Bretons, je dis pas, sont proches des Grecs, mais quand même, c'est intéressant de voir la différence des Bretons et des Grecs. La mer donne toujours un fou le camp. Les Hollandais, les gens du Pays-Bas, vous savez bien comment ils disent, ils définissent, c'est un point de vue géographie humaine. Hein. Dieu a créé l'univers et les Hollandais ont créé la Hollande. C'est du terrain gagné sur la mer, donc c'est eux qui l'ont fait. On voit très bien cette espèce de dimension, et ça joue ces choses-là, beaucoup plus qu'on pense. Il ne faut pas faire de philosophie uniquement, mais quand il s'agit de la personne humaine, le soubassement joue. Alors, c'est intéressant de voir dans cette philosophie grecque comment la réalité est présente. Je ne peux pas nier que dans Platon, est-ce que la personne humaine existe dans la philosophie platonicienne ? Oui. Posez-vous la question, ceux qui connaissent un peu Platon, quoi. Je crois que c'est Socrate. La personne est plus posée que chez Platon. Je crois que chez les pythagoriciens, la personne est plus posée. Parce que c'est l'homme religieux. Chez Platon, il y a tout de suite cet abandon du corps. Est-ce que quand j'abandonne le corps, est-ce que je peux encore découvrir la personne humaine? Lorsque je pars uniquement sur l'âme, est-ce que je peux découvrir la personne humaine? Vous voyez, C'est très intéressant parce que la position de Platon et la position de Heidegger sont deux positions que je crois très parallèles. C'est pour ça que c'est intéressant. Du reste, il faut tout le temps revenir à Platon. On a toujours dit que toute la philosophie occidentale n'était qu'une espèce de glose, d'herméneutique de Platon. C'est vrai, c'est pas entièrement vrai, mais il y a quelque chose de juste. Alors, voyez, pour Platon, il n'y a que l'âme. Pour la philosophie contemporaine, il n'y a que la personne. C'est un fait. Vous ne pouvez plus parler de l'âme aujourd'hui. J'ai fait la petite expérience. Pour la question de savoir si l'embryon, on pouvait le faire disparaître ou pas le faire disparaître, philosophiquement parlant. C'est très curieux que, quand il s'agit d'avortement, tous les philosophes se mettent à parler de la personne. Un Platon aurait parlé de l'âme. Alors, je crois que c'est très très important de saisir ça parce qu'on est en face de deux extrêmes de la pensée. Pour Platon, il n'y a que l'âme. La philosophie platonicienne, c'est la philosophie de l'âme. Et on sait aujourd'hui, Breyer l'avait dit, et il faut bien le comprendre, que le problème de l'âme n'est pas premièrement grec. Ça, il faut le comprendre, le saisir et le dire, parce qu'on a dit tellement de bêtises là-dessus qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas un problème proprement grec. C'est un problème des traditions religieuses de l'Inde. L'Inde est beaucoup plus proche de l'âme que le grec. Et c'est Platon qui, lui, va capter ce problème-là, religieux, et l'introduit dans sa philosophie. Et fait une philosophie de l'âme. Platon, c'est la philosophie de l'âme. Regardez chacun des dialogues de Platon. Et chacun des dialogues de Platon, c'est une philosophie de l'âme. Ce serait très intéressant de reprendre tout Platon de cette manière. Parce que je crois que c'est central. C'est vraiment central dans Platon. Il a été pris par cette intuition de l'âme. Parce qu'il y a une certaine intuition de l'âme. On n'a pas l'intuition de l'être, mais il y a une certaine intuition de l'âme. Saint Thomas dira qu'il y a une certaine connaissance affective de l'âme. On peut saisir l'âme quand on l'aime beaucoup, elle se montre. Quand on l'aime pas, elle se cache. C'est très curieux ça. Et on voit comme ça poindre l'horizon l'âme. C'est vrai, notre intériorité, vous voyez. Et tout le problème de l'ousia chez Platon est quand même très lié à l'âme. Peut-être même comme ça qu'on devrait comprendre l'ousia chez Platon. La déesse, Hestia, la déesse qui demeure dans la maison, c'est bien l'âme qui demeure dans la maison. Bien que la maison soit une maison qui est un tombeau, c'est un tombeau cette maison. Pour Platon, cependant, l'âme y demeure. Elle est bien obligée d'y demeurer. La cause de plaisir, c'est d'en sortir. Mais elle y demeure. La déesse Hestia, la substance. Et la substance est saisie par Platon à partir de l'âme. Et l'être est saisi par Platon à partir de l'âme. Tout est saisi à partir de l'âme. C'est l'intuition fondamentale qui explique tout Platon. Alors, ça explique cette opposition de la forme et de la matière qui est si forte chez Platon. Puisque la matière est une non-être. Alors qu'il n'y a que l'âme qui est forme, eidos. L'âme n'est pas morphée, elle est eidos. C'est Aristote qui apportera l'âme morphée. Elle est eidos. Eidos, voyez bien la forme un peu idéale. Eidos, la forme idée. On traduit Eidos, idée, c'est forme idée. Et c'est une forme qui a sa subsistance en elle-même. Elle a quelque chose qui structure. Est-ce que le problème de l'âme, est-ce que c'est le problème de la personne? Pouvons-nous ramener le problème de la personne au problème de l'âme? Chez Platon, c'est l'âme. Ça me semble d'une netteté absolue. Et l'âme, c'est l'âme noétique. C'est le nous. Ça, c'est sûr. On passe de l'âme au nous. On passe de l'âme à la contemplation. C'est l'âme contemplative. Chez Aristote, ce n'est plus l'âme qui est au cœur de toute sa philosophie. Je crois que c'est le mouvement, le devenir et l'être. Et c'est autre chose. C'est l'expérience extérieure. Des sens externes. La philosophie des sens externes a une valeur énorme chez Aristote. Fils de médecin, le réaliste du biologique, qui n'a aucun intérêt pour Platon, aucun. Vous avez mal aux dents, mais contemplez, le mal de dents disparaîtra. C'est ça que Platon vous dirait, tandis qu'Aristote dira, ah, vous avez mal aux dents. Je comprends. C'est pas facile de contempler quand on a mal aux dents. Tu vois, c'est plus difficile de contempler. Le réalisme de la vie biologique, le réalisme du composé humain, le réalisme. Alors, le composé humain, c'est l'être qui nous permet de comprendre le réalisme du composé humain. C'est pas l'âme, c'est l'être. L'âme se définira par la substance et pas la substance par l'âme. Voilà le renversement. Et ça, c'est vrai pour Aristote, c'est la substance qui éclaire l'âme. C'est l'être qui éclaire la vie. Il y a un renversement complet. C'est pas seulement expérience interne, expérience externe. C'est vrai. On est en face de ces choses tout à fait premières. Quand Aristote dit que une petite erreur au point de départ a d'immenses conséquences au terme, et qu'il parle de l'exemple de la source d'un fleuve qui se jette dans la mer, pensez toujours au Rhin et au Rhône. Les deux sources du Rhin et du Rhône, c'est assez proche. En Suisse, c'est assez proche. Et quand on voit toute la différence entre les deux, la spiritualité du Rhin et la spiritualité du Rhône, c'est pas la même chose. C'est très différent. Immense conséquence après, parce qu'il y a une petite erreur, une petite déviation au point de départ. Alors, saisissez toutes les petites déviations entre Platon et Aristote. Ça, c'est important de saisir ça. Petite déviation du point de départ, l'origine de la connaissance. La connaissance est d'abord intérieure, la connaissance est externe. Pour Platon, c'est la connaissance interne à réminiscence. C'est pas du tout le sens externe. Je n'ai aucune réminiscence en mes sens externes. Au contraire, je me réveille. Tandis que dans les sens internes, je continue. Je ne dis pas dormir, mais je continue de rester dans mon immanence. Différence entre l'âme et puis l'être composé. Différence entre substance et âme. Je définis l'âme par la substance. De l'autre côté, je définis l'âme par la substance. Et ainsi de suite. Ce serait très intéressant. Parce que ça nous ferait peut-être comprendre la différence entre ces deux grands génies, quoi. Qu'on soit plus aristotélicien, qu'on soit plus platonicien. Si on est aristotélicien, on a quand même un grand maître. Ça a des inconvénients. Si on a Aristote comme maître, on a un grand maître aussi. Là, il faut faire attention du choix de ces deux et de comprendre ce que ça représente. Alors, pour ce problème de la personne, puisque c'est ça que nous regardons, pouvons-nous arriver à la personne en ne regardant que l'âme? Aristote, regardant le composé et découvrant, je dis bien découvrant, l'analyse de l'âme et du corps. Pour Platon, on ne découvre pas l'analyse, la distinction de l'âme et du corps. On est de plein pied avec l'âme et on rejette le corps comme une impureté, comme une imperfection, comme une limite. Tandis qu'Aristote découvre la distinction de l'âme et du corps. Parce qu'il part de la réalité. La réalité, c'est moi-même dans toute ma complexion. Et on découvre distinction de l'âme et du corps. Et non pas séparation. Tandis que pour Platon, c'est tout de suite la séparation. Pouvons-nous atteindre la personne quand on voit la séparation de l'âme et du corps? Est-ce qu'Aristote, au contraire, dans une pauvreté beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus intéressant de parler tout de suite de l'intuition? Le platonisme est infiniment plus séduisant. Si on n'est pas séduit par Platon, c'est bien dommage. On a tous à être séduit par Platon. Sa petite crise platonicienne. Il faut la connaître. Si on la connaît pas, c'est dangereux. Vous la connaîtrez à 45 ans. Et à ce moment-là, vous rejeterez tout le réalisme d'Aristote. On m'a parlé d'Aristote alors que ce qui est intéressant, c'est Platon. Alors, comprenez la séduction de Platon. Comprenez-la. Elle est très grande, la séduction de Platon. Et elle est très forte. Parce que c'est l'intuition. C'est l'immédiat. Vous venez connaître immédiatement. Il n'y a pas d'induction. L'induction, c'est terriblement ennuyeux parce qu'on n'y comprend rien. C'est le tunnel, vous comprenez? C'est le tunnel, l'induction. Vous dites, comment c'est là? Puis vous verrez le terme, mais on ne voit jamais le terme. L'induction, c'est un tunnel qu'on creuse. Quand le tunnel est fait, ça va. C'est un tunnel qu'on creuse. Et on creuse ce tunnel. Progressivement. Alors, il faut découvrir l'immédiat avec Platon. On découvre l'immédiat, la forme, et on croit qu'on atteint la réalité. Platon, je crois, jusqu'à la fin de sa vie, est resté dans ce grand rêve. Il s'est peut-être réveillé un tout petit peu grâce au jeune Aristote. Grâce à Aristote qui pendant 20 ans était là pour dire attention, attention, attention. Parce que je crois que c'est ce qu'Aristote disait. Vous oubliez, vous oubliez. Votre intuition, c'est très bien, mais est-ce que c'est vrai? Quand vous regardez les lois, quand vous regardez la République, on voit que c'est deux styles différents. Quand vous regardez le Parménide, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose. C'est vrai, on sent très bien ça. Platon, à partir du Parménide, est en état de crise. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté en état de crise. Et je crois qu'il n'en est pas sorti. Et c'est intéressant de voir ça. Ben, l'euphorie platonicienne et l'état de crise. Parce qu'il y a les deux aspects. Un premier Platon et un second Platon. Comme du reste, je crois, chez tous les platoniciens, il y a un premier et un second. J'ai Merleau-Ponty, un premier, un second. J'ai Heidegger, un premier, un second. De ceux qui sont un peu à tendance platonicienne. Tandis que chez Aristote, on ne peut pas dire qu'il y a un premier, un second. Je ne crois pas du tout ça. mauvaises notes, qui disent qu'il y a un premier, un second, et même un troisième. D'ailleurs, trois aspects de Platon. On est tellement habitué aujourd'hui de voir que tous les gens nécessairement ont une évolution, alors que c'est pas ça, c'est une pénétration plus grande. Quand on part devant quelque chose de complexe, l'expérience est complexe, il faut analyser. Et l'analyse, ça met du temps. L'induction, ça met du temps. Faut pas croire du tout que tout de suite on arrive à induire. Et ça met du temps. Parce qu'il s'agit de pénétrer dans quelque chose de pareil. C'est, je crois, pour ça que l'aristotélisme, aujourd'hui, ennuie terriblement les gens. Parce qu'on ne saisit pas tout de suite et on est très très pressé. On veut tout de suite saisir. Ah, c'est lent. Vous savez, subir 20 ans Platon, ça dit quelque chose. Vous voyez pas ce que c'est, hein? Vous, quand vous avez dit, je subis pendant 5 ans les études philosophiques, j'en ai par-dessus la tête. D'avoir un maître, j'en ai par-dessus la tête. Vite, vite, sortons de ça et puis faisons quelque chose d'original. On est tous comme ça aujourd'hui. 20 ans, c'est quelque chose. Et c'est très grand, ça. Parce que ça fait comprendre ce que c'est que le réalisme. C'est peut-être la plus grande expérience du réalisme, d'avoir 20 ans un maître auquel on n'est pas parfaitement d'accord. Et progressivement découvrir, à partir de ce géant qu'est Platon, découvrir le réalisme. On ne voit pas assez ça. On ne voit pas assez ce travail incessant d'un Aristote qui analyse et qui induit, et qui progressivement arrive à découvrir les principes à partir de l'induction. Alors, ce qui me semble très intéressant dans la philosophie d'Aristote par rapport à ce problème de la personne, c'est qu'il me semble qu'Aristote ne veut rien abandonner de l'expérience. Rien abandonner de l'expérience. Il récupère le devenir. Il récupère la matière. Alors que Platon l'avait envoyé au diable, il la récupère, la matière. La matière, ce n'est pas du non-être. La matière, c'est une potentialité radicale. Récupérer la matière en face de Platon, c'est pas commode. Récupérer la génésis de devenir en face de Platon, ce n'est pas commode. Il récupère tout. C'est une philosophie qui récupère, qui veut rien abandonner, qui reconnaît l'abstraction. Et en reconnaissant l'abstraction, on ne veut rien abandonner. Il récupère ce que c'est que les castones, le problème de l'individu, ce que chacun est, et que chacun est dans son originalité propre. Mon originalité, c'est pas mon âme, c'est mon composé. C'est le composé qui est original, qui est individuel, qui est unique. Il y a une espèce de patience dans la philosophie d'Aristote. Cette patience, quand vous voyez le livre de Zéthan, comme c'est patient. Pour arriver au chapitre 17, dire Lucia, ça ne peut être que ça. Mais il fallait d'abord la voie négative. Pour laisser de côté tout. Tout de suite, chapitre 1, chapitre 17. Hein. Puis on croit comprendre, on ne comprend rien du tout. Si on veut aller trop vite, on ne comprend rien dans l'aristotélisme. C'est une voie de patience pour assimiler. Une voie d'expérience, on reprend tout le temps. Et on revient tout le temps à l'expérience. C'est cette philosophie de l'expérience chez Aristote. À la fois qui décrit l'expérience et puis qui l'analyse pour la dépasser. C'est la philosophie de l'interrogation. Si c'est l'expérience, c'est la philosophie de l'interrogation. Platon a gardé l'interrogation de Socrate. L'ironie socratienne. C'est vrai. Il y a des gens qui, quand ils interrogent, ironisent. Dans la vie commune, voyez tout de suite. L'ironie. des intellectuels qui interrompent en ironisant. Ah, tu en es encore là. Très bien, très bien. L'ironie de Socrate chez Platon, l'interrogation, elles existent, les interrogations, mais elles sont artificielles. Ce qui intéresse Platon, c'est la dialectique. Et la dialectique chasse l'interrogation. Dans la dialectique, on n'a plus besoin de l'autre. On n'a plus besoin que de soi. On trouve tout en soi. Aristote amène jusqu'au bout l'interrogation. Parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. L'interrogation aristotélicienne n'a rien d'ironique. Le plus petit, le plus pauvre a toujours quelque chose à m'apprendre. C'est le respect de l'autre. Quand on ironise, on est socratique, on est platonicien. On croit avoir tout de suite découvert. Si on est aristotélicien, on est respectueux de l'autre. C'est vrai, il y a un respect étonnant chez Aristote, du plus petit. Parce que c'est l'expérience et que c'est l'induction. Chacun possède en lui un secret qu'il faut découvrir, puisqu'il existe, et que tout être possède un secret. L'ousia, c'est le secret de l'être, et qu'il faut découvrir cela, il faut le dévoiler. L'induction, c'est un dévoilement de ce qu'il y a de secret dans l'être, dans ce qu'il y a de profond dans l'être. Je crois que cette philosophie d'Aristote est beaucoup plus proche de ce qu'est la personne. Parce que la personne, comme nous essaierons de comprendre, c'est un tout. C'est un composé, la personne. C'est un sommet. C'est une manière d'exister qui n'abandonne rien. Une vraie personne, elle n'abandonne rien. Elle en récupère tout. Elle lit la personne et l'individu. Et la séparation de l'individu de la personne, c'est très platonicien. Alors qu'au contraire, Aristote, l'individu et la personne, mais ça ne fait qu'un. On ne peut pas se séparer. C'est dans mon individualité que je suis personnel. Et ma personne est individuelle. On ne peut pas être autrement. Parce que je suis un tout. Et mon existence est dans le tout. Mais dans ce tout, il y a un ordre. Ah, Aristote, c'est le philosophe de l'ordre. Ça, c'est vrai. Platon est le philosophe de l'intuition. Aristote est le philosophe de l'ordre parce qu'il maintient l'unité dans la multiplicité. Et c'est ça, l'ordre. Et alors, il vient petit à petit à saisir ce qu'est la personne. Je crois. Mais le mot n'y est pas. Alors, où pouvons-nous découvrir le mieux ce qu'est la personne chez Aristote? Je crois que c'est à travers ces deux, ces trois grands aspects. L'éthique conduit à la politique. Éthique et politique se tiennent. Et dans l'éthique, c'est l'ami. C'est aussi le contemplatif, mais c'est l'ami. Alors, est-ce que ce n'est pas là quelque chose que Platon n'avait absolument pas vu? Est-ce que ce n'est pas là où, de fait, le problème de la personne va se nouer en premier lieu? L'ami, c'est nécessairement un être que je vois, que je contacte, que je touche, à qui je peux parler. La cognonia aristotélicienne, dans la philia, l'amour d'amitié et la cognonia, la mise en commun. C'est pas du tout platonicien, ça. La mise en commun. Comment voulez-vous mettre en commun deux âmes? L'âme est indivisible. L'âme est faite pour la contemplation. Je ne peux pas mettre raison de la complexité dans laquelle je suis qu'à cette mise en commun. Dans la complexité, je découvre une mise en commun. Et ça, c'est très très fort. C'est le sens de la complexité, c'est le sens de la multiplicité qui permet de comprendre la nécessité de l'induction. Si vous parlez de l'intuition, il n'y a pas de nécessité de l'induction. Tandis que là, au contraire, je vois la complexité de la personne. Aristote ne sait pas si la personne, si l'ami, c'est une vertu ou si c'est l'effet des vertus. C'est très beau, tu verrais ça. Mais quand Aristote distingue tout de suite les trois amitiés, je crois qu'il y a là un problème extraordinaire. Ce que Platon n'avait pas fait. L'amitié de jouissance, l'amitié d'utilité, l'amitié parfaite. Est-ce que là, il ne saisit pas ce que les pythagoriciens avaient saisi au point de vue religieux? Est-ce qu'Aristote ne réintroduit pas au niveau proprement humain les trois aspects pythagoriciens d'une façon toute différente, très originale, repenser les trois degrés? C'est vrai, la jouissance dans l'amour d'amitié, ça n'a pas besoin de s'apprendre. Mais ça tourne en rond, on s'enlise. Une amitié de jouissance s'enlise et appesantit. Il faut en sortir. Si vous restez dans la jouissance, vous ne découvrirez jamais l'induction. L'induction est au-delà de la jouissance. La jouissance est immédiate. Ah, l'amitié d'utilité. Ça fait penser beaucoup plus à la politique. Vous savez, dans la politique, il y a beaucoup d'utilité. On est vite machiavélique. C'est l'utilité. Tant qu'on est utile à un homme politique, il vous vénère. Le jour où vous êtes plus utile à un homme politique, il vous laisse tomber comme une vieille savate. Et il y a des candidats de gens qui sont comme ça. Vous coopérez avec eux tant que vous êtes utile pour l'image de marque. Oh, c'est comme ça. Alors, telle personne, oh oui, cette personne-là, oh, il faut l'inviter. Très important. On est en relation avec cette personne, ça fait bien. On est en relation avec telle autre personne. Puis le jour où l'étoile de cette personne pèse, ou plus besoin. Amour d'amitié, amour utilitaire. À la fin de sa vie, on pourrait noter toutes les amitiés utilitaires. Faut pas avoir d'amertume, faut regarder. C'est normal. C'est normal que les hommes soient des gens utilitaires dans une société comme la nôtre, de consommation. On consomme, les amis. Consommer les amis, c'est briser l'amitié. Aristote a vu ça, l'amitié utilitaire. L'amitié réelle, la seule vraie, qui assume tout le reste. C'est très beau, ça. Est-ce que l'homme ne touche pas la personne humaine? Est-ce qu'en découvrant l'ami, c'est pas commode de découvrir l'ami? C'est très difficile de découvrir l'ami. Parce que découvrir l'ami, c'est découvrir une plénitude. C'est un au-delà des vertus, mais ça implique la vertu. C'est un au-delà de l'utilité, mais ça implique l'utilité. C'est un au-delà de la jouissance, mais ça implique la jouissance. C'est extraordinaire. L'ami, vous voyez, c'est plus l'abstraction, là. Il ne faut pas abstraire, on est dans la réalité de la vie. On est dans l'éthique. Et donc on est dans la réalité de la vie pratique. On doit comprendre. Le domaine de la jouissance, ça existe. Il y a des gens qui ne vivent que de jouissance. va pas très loin. Ça va pas très haut. Mais quand même. Ça t'a pas de mépris pour la jouissance. Aucun mépris. Mais il voit les limites. Et oui, la jouissance, c'est... Comme les mots, c'est l'apéritif. C'est l'apéritif. Là, il y en a d'amer. Il y en a de tout. Ça dépend pour les gens. Puis il y en a très alcoolisés. Faites l'analyse et la philosophie des apéritifs. Vous aurez la philosophie des jouissances. C'est la jouissance, l'apéritif. Ça éveille, hein, ça éveille. Mais si vous continuez tout dans l'apéritif, faites un repas d'apéritif. Vous verrez ce que ça fera. Restez dans la jouissance, vous verrez ce que ça fera. Des apéritifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où est le beefsteak? Il n'y a que l'apéritif. C'est vrai. Il y a des amitiés de jouissance. Ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de finalité. Si ce n'est l'intersubjectivité de la jouissance. Pas de personne. On ne découvre pas la personne par la jouissance. Le beefsteak, il est caché. Impossible de le découvrir. L'utilité. Ah, l'utilité, l'utilité. Ah, c'est très très bien. À un certain âge, on veut l'utile, on veut l'utile, on veut l'efficacité, on veut l'efficacité. Les jeunes pays sont dans l'efficacité, l'utilité. Et puis après, quand l'ami a tout donné, l'amitié des forts en thème et des forts en version, l'amitié de l'efficacité. On s'aperçoit, là encore, ça n'aboutit pas. Pas de finalité, pas de personne. Ce n'est que dans l'amour d'amitié vrai, on distingue l'autre pour l'autre. C'est très très beau ça. Vous croyez que cette analyse-là n'implique pas d'avoir découvert un certain absolu dans l'ami. L'ami est un certain absolu. Et quand on a découvert l'ami, est-ce qu'on n'a pas découvert la personne? Oui, est-ce que Platon n'a pas découvert? Il faut bien le reconnaître, Platon n'a pas découvert. Platon est resté un peu dans la jouissance. Platon est resté un peu dans l'utilité. Il n'a pas découvert l'ami. Je crois que c'est là où on découvre chez Aristote une philosophie de la personne sans le mot. Alors pourquoi pas le mot? Ça, c'est intéressant de se demander. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'ami. Et l'ami ne fait pas obstacle à la contemplation. Tandis que l'amitié de jouissance, c'est l'été noir de la contemplation. Ça, c'est bien net. Quand vous restez dans la jouissance, c'est fini la contemplation. Quand vous restez dans l'utilité, c'est fini la contemplation. Pas de gratuité, pas un pouce de gratuité. Il faut découvrir l'ami au sens très fort et très profond. Celui-là n'exclut pas la contemplation. Et celui-là conduit à la contemplation. L'ami, qui est vraiment l'ami, aime que son ami contemple et soit solitaire. L'ami qui découvre véritablement l'ami découvre le désintéressement. Je suis heureux que mon ami soit heureux. Même si moi, je suis encore dans le labeur et la difficulté. Pff, c'est rare, ça. Parce que la jouissance, hélas, c'est l'accaparement, la jouissance. Et il y a des amis qui accaparent, qui étouffent. Ah, ne pousse pas plus vite que moi, surtout. Hein. Parce que si tu pousses plus vite que moi, tu me laisseras de côté. Mais non, je te laisserai pas de côté, mais je contemplerai pour t'aimer plus. Oh oui, mais pendant ce temps-là, je serai seul. Et je pleurerai tout le temps parce que je serai ça. Le petit gosse qui pleure parce qu'il est ça. C'est curieux que l'amour de jouissance ne mûrit pas, ne fait pas mûrir, ne fait pas atteindre la personne. La personne va impliquer l'autonomie. L'ami, le véritable ami, a son autonomie. Parce qu'il découvre sa vraie finalité. La finalité de l'ami permet de découvrir une autre finalité. C'est là le signe de la véritable amitié. C'est quand les amis, plus ils sont amis, plus ils sont autonomes. C'est tellement rare. Je crois que c'est ça la découverte de la personne chez Aristote. Et c'est très beau. C'est une noblesse extraordinaire. Une grandeur. Vous voyez, c'est par la foi.